Bah, l'an dernier, en effet, c'était une année record chiffre d'affaires parce que par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, bah, on avait fait deux fois plus de flux, quasiment deux fois plus de flux que d'habitude. Mais à côté de ça, c'est une année où moi j'ai été très triste, très malheureux. Bah, il y a eu plein de challenges administratifs. Quand on fait de l'aide à la création d'entreprise, on passe par des dispositifs d'aide au financement de la formation. En France, il y a ça. Évidemment, c'est de l'argent public, donc c'est extrêmement contrôlé et c'est une très bonne chose. Et même si on est sûr de ce que l'on fait, c'est oppressant. Il y a un niveau de stress qui est très haut. Et moi, ce niveau de stress, j'avais pas envie de le gérer l'an dernier.
Gérald Fort, tu es le cofondateur de l'incubateur Entreprendre, un programme qui a aidé plus de 6500 entrepreneurs à ce jour à bâtir leur stratégie de commercialisation. Le succès avec ce projet a rapidement été au rendez-vous et en l'espace de quelques mois, quelques années seulement, tu as atteint les 11 millions de chiffre d'affaires annuels. Et préalablement à tout ça, tu avais œuvré beaucoup dans le monde du e-commerce en générant plusieurs succès un après l'autre. Tu es également animateur du podcast Les Gros Mots. Gérald Fort, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Ben merci Antoine, merci de me recevoir, ça me fait super plaisir. Je suis vraiment content d'être là.
Et Gérald, avant de commencer l'entretien, peut-être tu pourrais expliquer à notre audience, une audience d'entrepreneurs, une audience de gens d'affaires, qu'est-ce que l'incubateur Entreprend.
L'incubateur, c'est aujourd'hui, c'est un programme d'accompagnement qui va conseiller et qui va prendre en charge des créateurs de projets, de l'idée ou de l'envie d'entreprendre jusqu'à toute la phase de go-to-market, donc c'est-à-dire structurer leur entreprise juridiquement, structurer leur offre. Et puis ensuite, aller se confronter au marché. Donc voilà, savoir communiquer sur l'expertise, savoir présenter les services ou les produits de l'entreprise, savoir les commercialiser. Et puis ensuite, voilà, la phase d'accélération, tout ça quoi. C'est vraiment la phase go-to-market que l'on adresse à travers l'incubateur et on fait ça sous forme de bootcamp. Donc c'est un accompagnement qui se fait de manière synchrone. Donc voilà en quelques mots ce que l'on fait dans l'incubateur Entreprendre.
Et je pense que vous êtes très spécialisé sur, comme tu l'as mentionné, la stratégie de commercialisation, comment aller chercher ses clients, structurer son offre, comparativement des fois à d'autres incubateurs qui peuvent être orientés sur d'autres aspects, je crois bien.
Ouais, bah je pense que c'est très lié aussi à la typologie de clients qu'on accompagne. Nous on va accompagner des prestataires de marketing qui ont un haut niveau d'expertise mais qui ont peut-être travaillé en agence et qui vont se lancer en tant qu'indépendant. Donc du coup, ils vont devoir constituer un portefeuille et puis ils vont devoir ensuite gérer une boîte. On va pas leur apprendre l'expertise en tant que telle, mais on va leur apprendre tout ce qui est toutes les compétences transversales de l'entrepreneur. Donc il y a ce genre de prestataires de marketing ou des consultants, des coachs, des formateurs. Voilà, ce type de public là. Et donc ouais, c'est beaucoup d'activation de vente en fait.
Gérald, on va faire peut-être un petit retour en arrière. Tu as étudié en école d'ingénieur, je crois bien. Tu as également fait du sport à haut niveau. Un joueur de rugby.
C'est ça, exactement. J'ai joué à 2 ans dans un club pro en tant qu'espoir. Et donc, j'ai fait ça en parallèle de mon école d'ingé, en effet, où j'ai appris le développement. Moi, mon métier au départ, c'était ma formation, c'est de développeur. Donc voilà.
Ce que je trouve toujours intéressant avec les gens qui sont en affaires et qui ont fait du sport, et personnellement, j'ai fait du sport pendant un très, très bon bout de temps, pendant que j'étais jeune, à un certain niveau également, il y a cet esprit de compétition qui s'installe dans le sport qui, très souvent, on est capable de retrouver un peu dans le monde des affaires, cette sensation de toujours vouloir gagner. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu tentais de retrouver également en te lançant en affaires?
Alors, il y a ce côté, oui, mais il y a surtout, je pense, moi, le point commun que je trouve avec mon sport, c'était le côté plutôt le faire en équipe. J'ai plus ce côté-là. Depuis cette année, je me suis mis au sport de combat, ça fait un an. Donc, sport individuel, pour la première fois de ma vie, à 33 ans, je me lance des défis. Et donc là, j'ai un peu plus cette sensation de vouloir gagner. Donc en fait, j'ai pas envie de te dire quand j'ai 19 ans, c'était le cas, c'était pas vraiment le cas, pour être totalement transparent. C'est plus maintenant à la trentaine où je ressens en plus une envie de tout défoncer. Mais j'avais beaucoup plus envie de le faire en équipe avant et là maintenant, j'ai plus envie d'avoir des challenges individuels. Donc c'est plus là-dedans où je vois les symétries par rapport à mon passif de sportif.
Si on regarde et qu'on avance un petit peu dans le temps, tu rentres dans tes premiers moments en affaires, début vingtaine, dans le domaine du e-commerce. Et je pense que tu as été capable d'amener certaines boutiques à certains chiffres d'affaires et ce, plus d'une fois. Peut-être tu pourrais nous ramener à cette époque-là et nous dire pour quelle raison, après avoir fait ton école d'ingénieur, tu t'es lancé dans l'e-commerce.
En fait, le e-commerce, c'était surtout une extension d'un concept qui est un concept de muse. J'avais lu des bouquins sur le principe de monter des muses, donc des business automatiques avec des revenus récurrents. Donc voilà, on peut appeler ça des revenus passifs. Alors moi, j'aime pas trop le terme revenu passif parce qu'en fait, c'est un terme très marketing et très peu réel.
C'est jamais passif. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça exactement. On va dire c'est passif, mais jamais pour tout le monde en tout cas. Donc du coup, en fait, je voulais développer des muses. J'ai utilisé au départ mon background de développeur pour développer des microservices que je vendais à travers du SEO ou du Google Ads. Et donc voilà, mais j'étais limité par mes volumes. Et un jour, en brainstormant avec l'équipe, on a décidé de partir sur du e-commerce. Donc voilà, de pas être forcément sur des outils type micro SaaS, mais plutôt de vendre des choses. Et on s'est spécialisé sur le Google Shopping, à développer des produits. Donc, Tu disais le mot boutique tout à l'heure. Nous, on avait plus une logique plutôt produit, donc référence de produits. Et on a adressé plein de catégories de produits qui étaient, voilà, avec des démarches intentionnistes, avec un volume de recherche, un volume de concurrence. Et on a arbitré l'opportunité à ce moment-là. Et donc voilà, c'est venu comme ça. Dans l'optique, en fait, de continuer à faire des muses, mais avoir plus de levier sur le volume qu'on pouvait générer, puisqu'on était capé dans notre première expérience de développement de business.
Et parle-moi un petit peu, parce que ce modèle d'abonnement-là qui est assez exceptionnel, je pense que tu intègres des stratégies d'upsell, tu vendais des produits physiques, par la suite, il y avait du service qui venait s'intégrer. Je pense que ça pourrait être quand même assez intéressant aujourd'hui pour notre audience, pour pouvoir décortiquer comment tout ça se mettait en place.
Ouais, avec plaisir. Bah, c'est le premier gros business qu'on a lancé avec mon équipe. On s'est rendu compte qu'en fait, le modèle sur Google Shopping, c'était sensiblement toujours la même chose. Je trouve un fournisseur chinois qui va me vendre un produit 10 euros, pour l'exemple. Derrière, je vais le proposer à 30 euros sur Google Shopping. Alors, Google Shopping, si, bon, j'imagine que les gens connaissent, mais au cas où, c'est les produits qui s'affichent sur les pages de résultats de recherche de Google. Et donc, en fait, c'est un comparateur de prix au départ de Google. Donc, en fait, je vois tous les produits concurrents, les mêmes références, les unes à côté des autres. Donc, je vois la photo, le titre et je vois le prix. Donc, en fait, c'est un comparateur de prix. Et donc, tout le monde avait à peu près la même logique. Et donc, bah, en gros, pour activer le taux de clic et avoir un maximum de visites sur notre site, bah, on s'est dit, il faut qu'on soit meilleur sur le prix. Et comment on va le faire? Parce que c'était toujours pareil. Il y avait toujours à peu près un tiers de marge, un tiers de coût de produit et un tiers de coût d'acquisition. On s'est dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le produit que l'on achète 10 euros chez le même fournisseur que les autres. On va payer notre TVA parce que nous, on est en Europe, on est en France et on va le faire. Donc, on va l'afficher à 12 et on va y greffer quelques euros en plus pour pouvoir payer la publicité. Et on va accepter de ne pas faire de marge sur ce produit en front, sur ce produit facialement. Et on va tout parier, on va tout miser sur le fait d'arriver à placer un upsell après la vente. Une fois que les clients sont venus sur notre site, en fait, on augmente la LTV client, on augmente la valeur par client. Du coup, pour augmenter sa valeur par client, il fallait qu'on ait un produit avec quasiment 100% de marge. Et donc, on a décidé d'aller sur des services, donc des services de vente privée, des services de complément d'infoproduits après un produit physique, etc. Et tout ça sous forme d'abonnement pour maximiser la LTV. Donc, on était bien plus bas que nos concurrents. Donc, on avait un taux de clic qui était bien meilleur. C'est quand même le gros avantage d'être sur un comparateur de prix, c'est de pouvoir jouer sur cette variable de prix. Et donc, voilà, c'est un paramètre important. Donc, on a joué là-dessus et on a tout misé sur l'upsell. Et on en a fait ce système-là qu'on faisait de manière artisanale pour nos propres boutiques, ce qui nous a permis de faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et plusieurs millions de résultats. On a dit, OK, ça c'est très bien, mais il faut qu'on professionnalise cette approche parce que nous, on est des développeurs, donc on aime bien mettre les mains dedans. Mais si on veut développer encore plus, il faut qu'on soit compatible sur Shopify. Donc, on développe une appli et qu'on devienne un SaaS, qu'on soit bon sur WordPress en développant une extension, etc., etc. Et donc, ça a été la naissance de notre premier gros business, s'appelait Spicy Checkout. Voilà.
Spicy Checkout. Ah, peux-tu m'en dire un petit peu plus? Donc, littéralement, vous avez commercialisé un logiciel par la suite.
Ouais, exactement. Alors, on l'a pas proposé en SaaS parce qu'en fait, j'avais pas envie de vendre ça à 500 euros par mois. Ça m'intéressait pas. Vu déjà le volume d'affaires qu'on faisait, ça, c'était pas cohérent. Ça aurait eu du sens en tant que tel si nous-mêmes on n'était pas éditeurs. Mais la façon dont nous on a commercialisé cette solution, c'est que on l'a proposé à des sites qui étaient eux déjà en place, qui avaient déjà du trafic, et on faisait du revenu cher sur ce qui était généré par ces abonnements. Et donc, en fait, on a fait un système d'affiliation, et c'est aussi là qu'on a découvert l'affiliation, qui est devenue après, pour nous, voilà, c'était une belle découverte, puisque tous nos business aujourd'hui, même si on aime bien la publicité, je sais qu'aujourd'hui, je parle avec un expert, mais on a aussi ce côté affiliation, ce côté recommandation qui compte beaucoup dans nos business, et on l'a découvert grâce à Spicy.
Donc, littéralement, tu as plusieurs boutiques, produits que tu vas faire la commercialisation. Tu fais pas de marge sur la première transaction, mais ça te permet d'aller gagner toutes les enchères littéralement parce que tu es moins cher que tous tes compétiteurs. Donc, eux ne peuvent pas compétitionner avec toi. Technique excessivement intelligente. Tu es capable de faire des revenus sur, pardonnez-moi l'anglicisme, le back-end derrière avec des services, valeur long terme client qui te permet de bâtir un petit peu cette infrastructure-là. Il y a un SaaS qui s'intègre. Et là, dis-moi, je serais curieux de t'entendre ici. Tu fais des revenus à gauche avec tes différents produits, boutiques en ligne, services complémentaires. Les revenus partagés que tu fais avec ces boutiques en ligne-là sur le moyen long terme, est-ce que c'est devenu plus gros que les revenus initiaux avec tes propres boutiques?
Ouais, non, clairement. Clairement, il y a une accélération. Première année où on fait ce business-là, on dégage à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à quelques euros près. L'année d'après, on passe à 6 millions 4. Alors, il y a eu aussi une accélération marché parce que on est tombé l'année du confinement. Voilà, il y a eu ça aussi. On va pas dire qu'on est des génies, hein. C'est pas du tout la tonalité que j'ai envie de prendre. Mais du coup, il y a eu aussi ça. Mais en effet, ben, au lieu de gérer nos propres sites, nos propres opportunités, et donc du coup de nous faire notre propre recherche de produits, notre propre voilà, enfin la génération d'opportunités, ben, on allait se greffer à des sites qui marchaient eux déjà très bien et qui avaient déjà des best-sellers. Et nous, ce qu'on amenait, là-dessus, on faisait du revenu cher 50-50. Et ce qu'on amenait, en fait, c'était de la marge en plus avec notre solution, la marge en plus pour le commerçant. Donc voilà.
Donc, littéralement, vous veniez intégrer même vos services que vous vendiez. Donc, c'est pas simplement la solution. Vous arriviez vraiment avec une structure d'upsell et une structure de vente de services derrière.
Exactement. On arrivait avec le produit fini. Et donc, voilà.
Les années passent. Ultimement, tu as l'incubateur entreprendre ici. Mais là, il y a l'entrepreneur en moi qui se pose la question. Si tu atteins 6,2, 6,4 millions avec deux lignes d'affaires comme ça, pour quelle raison tu fais plus ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est déroulé?
En fait, j'ai eu ma petite crise de la trentaine. Hein. Donc, du coup, alors, j'ai pas divorcé. C'est pas passé comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est un peu plus tard le divorce. Mais je crois que c'est plus la cinquantaine, donc je me méfie. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est les business qui sont hyper intéressants pour un technicien comme moi de mettre en place. Pour un compétiteur, c'est intéressant d'avoir ces chiffres-là. Mais après, en fait, la passion, elle tombe vite parce que c'est intéressant à court terme, mais sur le long terme, ça génère du chiffre d'affaires, ça génère du revenu, c'est très bien. Mais ça n'a pas beaucoup de sens sur le long terme. Pour moi, j'avais pas l'excitation d'aller plus loin. Alors, la bonne méthode, ça aurait été de le revendre ou de mettre quelqu'un qui sait le gérer. J'ai pas eu cette lucidité à ce moment-là. J'ai pas eu cette lucidité. J'aime bien dire que quand j'allais chercher mes gamins à l'école, si j'arrivais en avance, j'avais rien à raconter aux parents au portail, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Cette année, j'ai vendu pour 700 000 balles de gamelles pour chat, alors que j'ai même pas de chat, tu vois. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, je dis ça, mais voilà. Bon, après coup, je me dis, c'est un business qui aurait pu être revendu, c'est un business qui aurait pu être partagé avec quelqu'un qui aurait été capable de l'amener plus loin. Mais, en termes de focus, etc., et en termes d'opportunité aussi, moi, je me suis défocalisé de mon business. J'ai laissé, du coup, Baptiste, mon partenaire de business, s'occuper de ça. Et moi, je suis allé faire du conseil en one-one. Du consulting, du coaching, etc. Et en fait, j'ai découvert ça. Et donc, beaucoup moins... Économiquement, ça n'avait aucun sens par rapport au fait de continuer à éditer Spicy. Parce que j'allais vendre mes journées très peu cher. Mais par contre, j'avais ce challenge intellectuel que j'avais perdu, en fait, dans ce projet-là. Et donc, j'ai commencé à faire du coaching one-one, parler un petit peu de technique, un petit peu de lead gen, un petit peu de toutes ces choses-là que j'avais vues, moi, dans mon passé de e-commerçant et d'éditeur de SaaS. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un détachement par rapport au business, parce que moi, j'avais que des business sur lesquels j'avais aucun affect. Et donc, quand j'intervenais dans des business qui, eux, étaient des business de sens pour les personnes qui les éditaient, j'arrivais à avoir ce petit levier en mettant clairement le doigt sur des évidences que moi je voyais, que les autres voyaient un peu moins de par le manque de détachement émotionnel qu'ils avaient par rapport à leur projet. Donc j'ai découvert l'accompagnement et je m'étais jamais fait coacher. J'avais jamais coaché. Donc j'ai découvert ça à ce moment-là. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que je préférais faire ça que le reste. Et puis je trouvais moins de sens au fait d'éditer cette solution, d'éditer ces sites de e-commerce. Et donc c'est comme ça que j'ai basculé vers l'accompagnement et que j'ai développé l'incubateur entreprendre.
Donc tout le volet e-commerce. Aujourd'hui, ça n'existe plus.
Alors aujourd'hui, on a toujours des revenus passifs dans la boîte parce que notre première activité, quand on a démarré en même temps que l'école d'ingé, c'était de faire des muses. Ce qui est bien, c'est que les muses, ça peut durer longtemps. Donc on a une petite, on a du revenu qui est généré par ces revenus passifs. Mais par contre, c'est 0% de mon focus.
Même pas 1%.
Non, même pas 1%. C'est juste le bilan comptable une fois par an. Donc je sais pas si c'est J'ai un dashboard pour être tout à fait honnête. J'ai un dashboard à lire tous les mois. J'ai une notification sur Notion où on me donne le PNL de l'activité et ensuite après j'ai un rendez-vous avec le comptable. Fin d'année pour préparer le bilan de la boîte. Et donc voilà, c'est assez bien délégué. Je me suis du coup dilué pour pouvoir le déléguer comme il faut. Mais voilà, Spicy en fait n'était pas une muse. Donc Spicy, quand il a fallu arbitrer, il a fallu dire voilà, je pouvais pas le faire à moitié. C'était soit j'y restais pleinement et j'étais pas heureux, soit je partais faire autre chose et je trouvais des solutions. Il fallait que j'arrête le projet, quoi.
Tu fais de l'accompagnement un à un de manière peut-être un petit peu même par hasard, littéralement, hein, et t'es lancé là-dedans. Et comment tout ça se déroule par la suite? Parce qu'on va en parler un petit peu plus tard. Vous atteignez ultimement, après quelques mois, quelques années, 11 millions de chiffre d'affaires avec l'incubateur entreprendre. Donc, clairement, vous savez ce que vous faites. Vous avez été capable de le commercialiser. C'est une bonne chose parce que c'est par la suite quelque chose que vous allez enseigner aux gens qui vont être parmi vous. Mais comment cette réflexion-là s'est faite de ton côté de dire, j'aimerais prendre ce que je fais au quotidien maintenant, donc le coaching, et le transformer en un business qui pourrait avoir un petit peu plus de pérennité à travers le temps?
Déjà, c'est un ami en commun hein, qui m'a mis sur les rails du coaching, de l'accompagnement. C'est Romain Collignon hein, que tu as reçu également. Donc, c'est Romain moi qui m'a poussé là-dedans en me disant « Tu prends aucun engagement en accompagnant une personne, donc vas-y, n'aie pas peur. » Et en fait, après, ça me plaisait tellement que j'ai structuré. Et petit à petit, j'ai commencé à embarquer mon équipe qui était sur Spicy et à leur dire « En fait, Baptiste, il faut que tu donnes un coup de main sur l'acquisition parce qu'en fait, là-dessus, moi, je suis un petit peu limite. Donc, rejoins-moi sur un appel. Florian, il faut que tu me donnes un coup de main sur le CRM et sur la vente, il faut que tu me donnes un coup de main là-dessus, etc. » Et donc l'équipe s'est structurée comme ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, je répète souvent la même chose. assez basiquement, cheminement assez classique hein, dans nos métiers de l'accompagnement. Je répète souvent la même chose. Ben, ça pourrait être industrialisé avec du contenu vidéo et en structurant peut-être un côté un peu plus communautaire en faisant venir les gens peut-être dans des bootcamps, des coachings de groupe, ce genre de choses-là. Enfin voilà, ça s'est fait de manière empirique. Hein. Ça s'est fait de manière empirique en essayant de structurer la chose. Voilà, le gros boost, c'est quand j'ai compris qu'en fait, si je voulais avoir beaucoup de monde, voilà, il fallait que je voie mon business, l'opportunité de mon business comme une pyramide. Et ce qu'il fallait que je fasse grossir pour faire grossir toute la pyramide, c'était la base. Que j'adapte mon programme sur la phase go-to-market, puisque moi, mes accompagnements, ils étaient plus au départ sur les phases d'accélération. Et donc en fait, je suis descendu d'un étage pour faire grossir la pyramide et ensuite pour faire grossir l'édifice au global. Mais donc, c'est vraiment le socle de la pyramide, le plus gros échantillon de population, donc ceux qui veulent monter un business, qui était pour moi le gros domino actionné pour faire grossir tout ce business d'accompagnement.
Et on va décortiquer ça ensemble parce que c'est assez fascinant. Je veux le dire à l'audience, à moins que ça ait changé depuis, mais je pense que tu n'as pas investi en publicité, si je me trompe, pour commercialiser le tout.
Du tout.
Pas utilisé la publicité pour commercialiser l'entreprise dans laquelle tu es déjà au moment où on se parle, l'incubateur entreprendre. 11 millions de chiffre d'affaires deuxième année. Et tout part un petit peu de cette fondation-là et des mécanismes de commercialisation reliés à l'affiliation que tu avais compris quelques années plus tôt. Décortique pour nous, s'il te plaît, Gérald, comment tu t'y es pris? Parce que je pense que ça peut aider énormément d'auditeurs dans leurs envies d'aller chercher plus de clients.
Moi, j'ai identifié que ce que j'apprenais à faire aux gens, c'était en fait de monter une boîte. Assez basiquement. Je deviens média buyer sur Facebook, consultant, freelance, je monte une boîte. Je deviens coach sportif en ligne, je monte une boîte. Je monte un cabinet expertise comptable, je monte une boîte. J'ai des problématiques de structuration, de présentation d'une offre et de commercialisation de tout ça. Et évidemment, de communication, de management, etc. Du coup, j'avais découvert avec Spicy, comme tu le mentionnais, le fait que d'utiliser la puissance des autres, ça c'était un levier de dingue. Donc, j'ai contacté tous mes copains, infopreneurs, coach YouTube, on peut appeler ça comme on veut, qui, eux, vont former une compétence qui est une compétence fondamentale. Je vais prendre quelqu'un, admettons, qui forme pour devenir coach sportif. Voilà, il va leur apprendre à comment prendre en charge un client, mais pas comment le recruter, comment structurer la boîte, etc. Et donc, je me suis greffé à son programme. Lui était en front, et moi, une fois de plus, comme à l'époque où je vendais des upsells sur un e-commerce, je propose quelque chose en supplément qui se greffe. Et évidemment, le partage de revenus, j'étais déjà sur un très gros partage de revenus sur Spicy, mais là, j'ai fait encore plus. Puisque au départ, j'ai proposé 80% de mon chiffre d'affaires pour mes premiers affiliés. Je reversais 80% du chiffre d'affaires qu'ils me généraient. Et donc, du coup, pour eux, c'était un no-brainer. Alors, c'est pas une stratégie que j'ai inventée, hein. C'est une stratégie que Evernote a mis en place pour se commercialiser au départ. Evernote, le grand frère, l'arrière-grand-père de Notion, quoi. Donc, du coup, c'est une stratégie que j'avais lue. Et donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, je reverse 70% de mon chiffre d'affaires à mes affiliés. Et donc, du coup, ils greffent à leur programme. Nous, derrière, on a un accompagnement, en plus, qui se fait de manière synchrone. Donc, c'est un coach qui prend en charge le client. Et donc, très souvent, ça me donne un côté humain dans l'accompagnement global, dans l'expérience client globale, alors que mon affilié ne le fait pas. Et puis, on sait qu'il y a un très faible passage à l'action des gens qui achètent des formations. Et donc, nous, vu qu'on les fait bosser sur justement de la productivité et on fait en sorte qu'ils avancent sur leur projet parce qu'ils doivent monter leur boîte au bout de 90 jours, en fait, on augmente le succès client de nos affiliés. Puisque si j'achète une formation que je l'ouvre pas, je vais pas avoir de succès. Mais si par contre j'ai quelqu'un qui me botte les fesses, pour parler crûment, un peu toutes les semaines en me disant voilà, t'en es où? Est-ce que t'as contacté ton premier client? Est-ce que t'es allé récolter ton premier témoignage? Est-ce que t'as fait ta première publicité? Est-ce que t'as décroché le téléphone? Est-ce que t'es allé voir des prescripteurs, etc. Forcément, j'ai un meilleur succès client. Et donc le formateur qui est en front, lui, a également une meilleure réputation par la suite.
Donc littéralement, tes clients peut-être un peu plus avancés sont devenus tes leviers marketing.
Exactement.
À hauteur de 80% du chiffre d'affaires que tu leur reverses.
Au départ. Maintenant, je suis à 70, mais au départ, j'ai démarré à 80%.
Quand on parle de 11 millions de chiffre d'affaires là-dedans, est-ce que c'est uniquement des revenus qui te reviennent à toi ou il y en a qui vont à tes affiliés là?
T'as raison, okay. Tu mets le doigt sur quelque chose. Si on regarde les 11 millions de chiffre d'affaires, il y en a 8 qui ont été générés par l'incubateur. Le reste a été généré par mes autres activités. C'est mon groupe, en fait, qui a fait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces 8 millions qui sont générés par l'incubateur, du coup, si tu veux connaître réellement ce que j'ai gagné, tu gardes que 30% de ça.
Intéressant, mais tout de même, c'est assez exceptionnel.
C'est un jeu de volume après. Hein.
C'est un jeu de volume. Il n'y a pas de publicité qui sont intégrées à ça. Tu es dans un modèle où est-ce que essentiellement les marges de profit brut sont excessivement élevées. Donc, c'est un modèle très intéressant à répliquer pour beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui.
Et au niveau des ratios, des gens qui vendent des formations, qui vendent avec de la publicité, qui ont des coûts de livraison, etc., ils font peut-être, et c'est pas sûr, ils font peut-être entre 10 et 5% de marge de plus que ce que moi je fais aujourd'hui avec mon système. Donc en fait, au final, j'ai une marge, un taux de marge qui est sûr, j'ai pas de variance parce que c'est contractuel. Par contre, j'ai juste un enjeu, moi, c'est que j'ai pas le pied sur la pédale d'accélérateur. C'est pas moi qui décide le volume que je vais faire. Donc tout mon enjeu aujourd'hui à moi, en dehors évidemment de livrer mes clients, de faire en sorte qu'ils aient du succès, bah, c'est d'être un outil. Moi, j'ai toujours été un outil pour tous mes affiliés. J'aurais pas juste dit « vends mon truc et on partage des revenus ». C'est comment, en fait, je peux être déjà un outil pour ton business et que accessoirement ça me revienne. Donc moi, mon boulot aujourd'hui, bah, c'est de donner un coup de main à mes affiliés pour qu'ils fassent de meilleurs lancements marketing, faire du contenu avec eux, faire même des événements, proposer tout type de services, mais qu'on fait complètement en plus, on mange dans la même gamelle, comme j'aime bien dire. Donc en fait, j'ai tout intérêt en fait à me battre à leur côté. Et donc en fait, je leur amène des solutions pour justement qu'on puisse lancer plus vite, qu'ils m'oublient pas aussi dans un lancement, qu'on puisse lancer plus fort et puis qu'on puisse générer plus de chiffre d'affaires. Enfin, voilà, ça c'est l'outcome, mais c'est ça
l'idée. Tu deviens client de tes clients, littéralement.
Exactement. On peut même dire, à certains moments, j'ai presque l'impression d'être leur prestataire marketing. Alors, je fais pas de prestation marketing avec eux, mais par contre, on se pose autour d'une table et on voit le lancement qu'on va faire. On a un lancement dans 2 mois. OK, comment on fait? Quels moyens vous avez? Vous avez des difficultés pour faire tel truc? Ben, nous, on a la ressource qui va bien. On est partenaire de tel truc. On a un client dans l'incubateur qui est expert de tel ou tel domaine, qui pourrait devenir du coup un prestataire pour notre lancement commun, etc. Donc nous, on est vraiment, on essaie de trouver des solutions et c'est vraiment notre enjeu parce que c'est le seul moyen de piloter notre croissance, c'est d'être un outil pour nos affiliés.
Bah, c'est totalement fantastique et intelligent comme approche. J'adore, et même qu'il y a l'incubateur entreprendre, et je pense que tu as créé un nouveau pilier aujourd'hui, un nouveau palier plutôt, avec un mastermind qui est venu s'intégrer à l'incubateur que tu as créé. Là.
Ouais, exactement. Ben, comme je te le disais, première étape, c'était de nourrir le socle de cette pyramide, le bas. Donc du coup maintenant je remonte d'un étage et donc là aujourd'hui donc j'ai un mastermind, donc c'est un programme sur 6 mois, hein, qui dure toute l'année, mais on est toujours 35 quand il y a quelqu'un qui sort, on a une place qui s'ouvre pour un nouveau. Donc voilà, ça se fait avec des rencontres physiques comme beaucoup de mastermind, et ensuite on a des calls hebdomadaires, on a deux calls par semaine, deux calls de deux types différents, et l'idée c'est justement de traiter tous ces sujets de croissance. C'est plutôt évident comme ça, mais je le dis évidemment, mes affiliés sont mes premiers clients de mastermind. Puisque si je suis au contact avec eux toutes les semaines, voilà, on arrive à être dans l'anticipation, on construit des choses ensemble, et puis voilà, comme je disais, on se nourrit dans la même gamelle, donc on a tout intérêt à bosser ensemble. Et donc voilà, l'étape suivante, c'est de la croissance, et c'est un peu ça qui me permet d'avoir aujourd'hui le pied sur la pédale d'accélérateur, un petit peu du moins.
Et ils sont capables rapidement de trouver le retour d'investissement dans leur investissement envers ton mastermind, avec toute l'affiliation qu'ils sont capables de faire. Donc c'est assez ingénieux tout ça. Bon. Gérald, il y a un point qui est assez intéressant et je te trouve très humble d'en parler, de vouloir en parler aujourd'hui. Tu as atteint ce fameux 11 millions de chiffre d'affaires. Bon, certains millions vont dans tes affiliés, certains millions vont dans tes poches, mais tout de même, c'est assez exceptionnel de l'avoir fait aussi rapidement. Félicitations. Mais tu as eu cette réflexion-là honnête envers toi-même de dire, tu sais quoi? Bâtir des organisations à plus que 5, 10, 15, 20 millions de chiffre d'affaires, c'est peut-être pas pour moi. Je serais curieux de t'entendre un petit peu plus sur le sujet ici.
Bien sûr. Ben, moi, j'ai pas du tout de problème à en parler parce que je pense qu'il y a un apprentissage j'aurais bien aimé l'entendre, en fait, avant. Donc, c'est surtout ça qui me motive à en parler un petit peu. C'est que, l'an dernier, en effet, c'était une année record chiffre d'affaires parce que par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, en effet, deux fois plus de flux que d'habitude. Mais à côté de ça, c'est une année où moi, j'ai été très triste, très malheureux. On a eu plein de challenges administratifs. Quand on fait de l'aide à la création d'entreprise, on passe par des dispositifs d'aide au financement de la formation. En France, il y a ça. Ben, évidemment, c'est de l'argent public, donc c'est extrêmement contrôlé et c'est de très bonnes choses. Et même si on est sûr de ce que l'on fait, ben, en fait, ces contrôles-là, ils sont quand même très pressurisants. C'est oppressant. Il y a un niveau de stress qui est très haut. Et moi, ce niveau de stress, j'avais pas envie de le gérer l'an dernier. Donc, l'an dernier, on a eu aucun problème. On a eu aucun problème à terme à la fin de nos contrôles, mais par contre le fait de gérer ce contrôle-là, ben c'est quand même pas quelque chose de simple. Donc en fait ça c'est un des exemples. Ensuite, ben forcément quand on développe une boîte, on s'occupe un peu moins de ses équipes. Donc j'ai eu pour la première fois en 10 ans des litiges avec des collaborateurs. Et j'ai eu également dans ma vie perso pas du tout d'équilibre. Parce qu'en fait, quand on double la taille de sa boîte sur une nouvelle activité, le sport, les enfants, la vie de couple, enfin tout ça, ça devient plus du tout une priorité et c'est à tort. Donc voilà. Et là, je prends quelques exemples, mais en fait, on voit que c'est une sorte de c'est empirique, quoi.
Hein, c'est cercle vicieux, bien sûr.
C'est ça, exactement. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une taille de boîte. À quel moment ça avait commencé ces histoires-là? En fait, je me suis rendu compte que ça a commencé quand on avait doublé en fait la taille du business. Et donc, il fallait que je retrouve une sorte de matrice qui est la croissance de ma boîte et qui est mon confort. Et je pense qu'il faut qu'on positionne notre point perso. Alors, c'est pas mon boulot de parler de ces sujets-là, c'est juste un retour d'expérience personnelle. Hein. Je suis pas expert de ce truc-là. Mais il y a un moment où le niveau de croissance de la boîte est assez important pour me satisfaire. Mais si je vais au-delà, je rentre dans de l'inconfort. Et donc, je pense qu'il y a ce point de patinage à trouver. Et moi, je pense que ce point de patinage, il était aux alentours de 5 millions, en effet, comme tu disais tout à l'heure. On a fait en sorte de pas de faire décroître la boîte, mais ça a été une des conséquences. Mais on a certains affiliés qui étaient très chronophages, sur lesquels on avait pas un plaisir à travailler, sur des produits sur lesquels on n'était pas hyper aligné, etc. Mais on a décidé de stopper des collaborations et donc de couper des réseaux de distribution, en fait, hein, c'est un petit peu ça. Donc voilà, donc on a fait dégonfler le business, et ce temps-là que j'ai récupéré m'a permis de lancer le Mastermind, qui était un projet, qui était mon projet de rêve initial. Parce qu'au départ, mon projet, c'était pas de lancer l'incubateur. Le projet, c'était de faire des accompagnements en individuel, comme je te le disais, et de trouver une solution. Mais je savais que si je voulais le faire, il fallait d'abord que je commence par le bas de la pyramide. Et donc, ça m'a accéléré peut-être de 2 ou 3 ans, cette vision, en justement regagnant de la bande passante à court terme. Voilà.
Et là, aujourd'hui, où va ton temps? À quoi ressemblent un peu les activités en 2023?
Aujourd'hui, mon temps, il est de discuter avec mes affiliés, de discuter avec mon équipe qui gère la livraison du produit. Donc voilà, ça c'est très peu chronophage, ça doit être aux alentours de 20% de ma semaine. Et le reste du temps, c'est mon mastermind. Du coup, j'ai mes calls toujours en individuel, mes appels de consultation en individuel, j'ai mes consultations de groupe et mes rencontres à organiser. Et en fait, je passe beaucoup de temps avec mes clients. J'aime ça parce que du coup, je remets les mains dans le business et en fait, je me rends compte que j'aime trop ça. Je suis pas le genre de personne, et on le voit, j'ai eu 2 gros business et au final, quand ils deviennent trop gros, je rentre dans l'inconfort. Donc, je pense que je suis quelqu'un qui doit bosser sur des lancements, bosser sur du débugage, etc. Mais je suis peut-être pas la bonne personne pour scaler à des niveaux qui me dépassent. Donc voilà, ça, je l'accepte. Pour moi, c'était compliqué au départ, parce que je voulais être le meilleur à tous les étages. Et ça, je crois que c'est, en tout cas, dans mon cas, c'est pas possible. J'aime bien mettre la main dans des business. La suite, et je prépare ça, ça va être de pouvoir investir un petit peu plus auprès de mes clients, pouvoir leur apporter des solutions où je leur facture pas de la prestation de conseil. Je peux également investir dans leur boîte, je peux également prendre des participations en échange de conseils. Donc voilà un petit peu mon présent et mon futur par rapport à cette activité d'accompagnement.
Et j'ai vu que tu étais investisseur également, investisseur chez Le Crayon, investisseur également chez d'autres boîtes. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir avoir peut-être le chapeau d'entrepreneur et le chapeau d'investisseur? Et également, combien de temps ça te prend dans ton quotidien?
Alors aujourd'hui, les boîtes dans lesquelles j'ai investi sont des boîtes qui sont de mon réseau. C'est pas une activité d'investisseur professionnel. C'est vraiment love and family, comme on dit. Le Crayon, je suis ami avec les fondateurs. Ils sont venus sur mon podcast. Ils m'ont fait confiance quand j'ai lancé mon podcast. Ils ont fait partie de mes premiers invités, alors que j'avais très peu d'audience. Donc du coup, c'était évident pour moi de donner un coup de main au moment où j'en ai eu besoin. Il y a d'autres boîtes comme ça. Mastéos, par exemple. Thierry, qui au moment où il est venu sur le podcast, il avait presque 200 collaborateurs. Dans sa journée, il avait autre chose à faire que de venir passer 2 heures avec moi sur mon podcast. Il l'a fait très gentiment et donc voilà. Et donc au moment où ils ont levé de l'argent, j'ai investi. Ça c'est pour le côté réseau. Sinon, d'un point de vue plus skill, moi j'ai envie que la suite, comme je te le disais, la suite sur ma pyramide, ça va être de pouvoir investir dans les business de mes clients, que ce soit ceux de l'incubateur ou ceux du mastermind, de pouvoir déployer la trésorerie qu'on a dans l'entreprise. Et il faut que j'apprenne à faire ça. Et donc c'est le meilleur moyen en fait de j'apprends en faisant, moi c'est comme ça. Et donc j'apprends ça, on structure des petits deals, on structure des petits SPV, des petites holdings pour investir, on mobilise des copains qui co-investissent avec nous, etc. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est hyper réglementé. Et donc ça, il faut le comprendre. Il y a des codes particuliers au monde du private equity. Donc c'est hyper intéressant aussi. Moi j'adore apprendre, donc ça c'est top. Et puis l'expérience va. Ça avance plutôt bien. Quand j'ai investi dans le Crayon, j'ai signé juste en dessous de Xavier Niel, qui a investi en personne dans le Crayon. Donc c'est des trucs, wow. C'est hyper intéressant. Je l'ai jamais rencontré encore, mais peut-être que un conseil d'administration, peut-être qu'un jour je serai assis à la même table que lui et ça sera une belle expérience. Peut-être que j'aurai rien à lui raconter, mais en tout cas, c'est sûr que si j'investis pas dans ce genre de projet, j'ai pas ce genre d'opportunité. Donc voilà. Aujourd'hui, j'apprends dans ça.
L'idée, c'est de devenir peut-être un investisseur actif.
J'aimerais bien que ça soit la suite, ouais, en effet.
Investisseur actif, dans le sens où est-ce que t'es littéralement, comme tu le fais, j'ai l'impression avec ton mastermind et ton incubateur, présent pour aider des clients à croître. Et tu peux également venir faire une aide, que ce soit un investissement en argent ou un investissement en temps. Et force est d'admettre qu'avec ce que tu as appris et ton niveau d'expertise, cette aide doit être bienvenue chez tes clients.
En tout cas, j'essaie qu'il y ait toujours ce côté, s'il y a de l'argent, il y a c'est smart money. C'est toujours d'avoir cette approche-là. Pour moi, comme je te disais, c'est une super opportunité d'apprentissage surtout pour l'instant. Et donc voilà, je réfléchis ça, mais c'est la vision long terme, en effet. Ouais, t'as mis le doigt dessus.
Fantastique. Petite question personnelle, Gérald. J'aime toujours savoir ce que mes invités lisent. Quels livres ont marqué ton imaginaire, peut-être, dans la dernière année, que tu pourrais partager avec notre audience?
L'an dernier, quand j'ai eu tous mes histoires administratives, là, j'ai justement, je me suis rendu compte que je prenais pas assez de temps pour moi. Donc, je me suis remis à faire du sport. Et je me suis remis à lire, en effet. Et il y a deux bouquins que j'avais lus il y a très longtemps que j'avais pas compris. Enfin, que je croyais avoir compris. Et en fait, voilà. Le premier, c'est La semaine de 4 heures, qui était le bouquin qui m'avait lancé. Je voulais absolument le réécouter parce qu'en fait, je voulais recréer la flamme de départ. Et donc, je me suis dit, attends, il faut que je me remette dans le même contexte. Il faut juste que je relise les mêmes bouquins. Bon, avec les cheveux blancs en plus, mais bon, ça, c'était, je pouvais pas faire autrement. Mais sinon, le livre qui m'a vraiment aidé et qui m'a aussi permis d'arbitrer cette histoire d'affiliation, de faire moins et d'aller sur des projets, c'est L'art subtil de s'en foutre, que j'ai vraiment bien aimé. Alors, ce livre, il polarise beaucoup. Soit les gens, ils le détestent, soit ils l'adorent. Moi, je fais partie des gens. Déjà, je le prends au second degré. Et du coup, il y a quand même plein d'apprentissages dans L'art subtil de s'en foutre, notamment le fait de choisir ses problèmes. C'est un truc que j'avais oublié. Parce que je voyais toujours l'outcome, le rêve, la ligne d'arrivée, et je voyais pas les problèmes qui étaient inhérents à ces objectifs-là. Et donc là, ça y est, je suis beaucoup plus au clair là-dessus avec ce bouquin-là. Voilà.
Podcast. Je sais que tu es animateur d'un podcast, le podcast Les Gros Mots. Vous irez l'écouter si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais sinon, lesquels tu écoutes?
Podcast que j'aime bien, ça change pas mal. En ce moment, j'écoute Entrer dans l'histoire. Donc, rien à voir. C'est un podcast de Laurent Deutsch. J'aime beaucoup parce que du coup, il vulgarise l'histoire et j'adore. J'essaie le moins possible de me polluer, entre guillemets, avec des podcasts business parce que en ce moment, ça me fait pas du bien. C'est que ça me challenge trop. Mais il y a des périodes où je peux en écouter 3 par jour. Donc en ce moment, c'est ça, mais je vais quand même te répondre pour donner des refs. Moi, j'aime beaucoup le podcast de Romain, notre pote en commun, du coup, le podcast Structure, que je trouve très bien. J'aimais beaucoup quand il avait ses invités du monde startup, etc. Mais j'aime beaucoup aussi les épisodes où il parle de son organisation interne, parce que il a une organisation chirurgicale et du coup, c'est top. J'aime beaucoup le travail de Théo Lyon, que je trouve intéressant. Après, j'écoute un peu moins ceux de Mathieu Stéphanie, mais c'est ceux qui m'ont mis dans le bain à l'époque. Et donc, voilà. Et mon podcast préféré, qui n'existe plus. Enfin, on peut le retrouver, mais il n'y a plus d'épisodes. C'est un podcast de Antonin Archer, je crois, qui s'appelait Nouvelle École, qui était pour moi un super podcast sur comment il se développe personnellement, il build in public son développement personnel, et je trouve ça génial. Et donc, il a arrêté, il fait autre chose, je crois que c'est un artiste. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup ce podcast, et donc voilà. Et puis évidemment, quand je tombe sur des épisodes qui m'intéressent, je vais sur le tien. Voilà, dans mon mastermind, il y a beaucoup de gens qui font des podcasts, donc j'en écoute aussi.
Fantastique. Et routine, quelle est ta routine avant, pendant et après le travail?
Alors déjà, j'ai 2 enfants.
Quel âge?
9 ans et demi le grand et 5 ans et demi la petite. Alors déjà, c'est eux qui cadrent le temps de travail, parce que il y a l'école le matin, il y a l'école le soir. Alors déjà, je me suis retiré à la campagne, vraiment la campagne. Il y a moins de 500 habitants dans mon village. Je suis à 1 heure de Bordeaux, je suis à côté de Saint-Émilion. Et du coup, je commence par le sport, assez basiquement, parce que je sais que j'ai pas du tout la force mentale de le faire le soir. Donc du coup, je fais le sport de 6h30 à 7h30. J'ai un coach qui vient à la maison, parce que sinon je me lèverai pas. À 8h, je suis douché, j'amène les enfants à l'école et je démarre le boulot tous les jours à 9h. L'après-midi, j'ai un autre entraînement de sport, très souvent vers 14 ou 15h. Je fais du MMA, sport de combat.
À tous les jours?
Quasiment, ouais, 3 fois par semaine. Je travaille pas le mercredi parce que je passe la journée avec les enfants, donc je travaille 4 jours. Et donc voilà. Et après, les deux choses qui ne bougent pas dans la semaine, c'est les accompagnements du mastermind, puisque en fait là, il faut un temps de concentration qui est total. Puis enfin, il faut une concentration qui est totale et un temps qui est vraiment bien défini. Donc c'est essentiellement ça. Donc rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, je sais que quand je perds ce rythme qui n'est pas extraordinaire du tout, ça a un impact vraiment significatif dans ma vie. Donc voilà.
Intéressant. Donc 4 jours semaine de travail.
Ouais, 4 jours. Le mercredi matin, j'ai mes mails, etc. Mais je suis pas focus. C'est-à-dire que je suis pas dans mon bureau ici. Je peux être en bas sur l'îlot de la cuisine avec mes mails ou prendre un appel avec quelqu'un de l'équipe, etc. Si les enfants sont en train de regarder un dessin animé ou de se brosser les dents. Mais en gros, c'est vrai que je suis à la maison le mercredi. Et donc, je suis toujours à la maison, mais là, du moins, je suis pas dans le bureau, quoi. Je suis vraiment dans le lieu de vie. Et donc, pour l'instant, l'équilibre va bien. Voilà. Et hélas, j'ai envie de dire, je suis obligé de me déplacer de temps en temps sur Paris. Alors, c'est pas très loin, c'est à 2 heures de train. Mais ça me casse mon rythme. Et là, pour le coup, moi, je suis obligé de le faire. Il faut développer son business. Surtout qu'en plus, je développe mon business par le réseau. Mais c'est vrai que c'est un peu, ça me challenge quand c'est comme ça.
Donc, t'aimes rester pas tellement loin de Bordeaux, avec ta famille, avec ton sport, avec tes projets. T'es bien comme ça.
C'est ça, exactement.
J'adore ce que j'entends, Gérald. Je trouve tes organisations excessivement fascinantes, bien construites de manière différente. Et je pense que ça valait la peine de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Si on veut en savoir un petit peu plus sur tes différents projets, l'incubateur entreprendre, le mastermind, quel est l'endroit le plus simple pour te rejoindre?
Ouais, super. Ben, merci déjà de m'avoir reçu. C'était ultra, ultra plaisant de répondre à tes questions. Et du coup, si on veut regarder un peu le travail, ben, moi, je suis assez actif sur Instagram, donc Gérald Fort. Et sinon, j'ai un site qui s'appelle entreprendre.me. On retrouve les deux programmes, l'incubateur pour lancer sa boîte et le mastermind pour accélérer. Sur ce site-là, il y a aussi le lien vers le podcast qu'on doit tourner ensemble aussi. On doit faire un match retour sur mon podcast, on en avait parlé. Il faut qu'on organise ça. Ce sera l'occasion aussi peut-être de croiser les communautés. Ça peut être sympa.
Bien sûr, ce sera avec plaisir. Gérald Fort, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, je répète, un entretien totalement fascinant. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.